Ce balado est une présentation de la Table nationale des corporations de développement communautaire.
Je l'appelle affectueusement le département des miracles, parce que ce monde-là fait tout avec presque rien. Améliorer les conditions de vie, atteindre une plus grande justice sociale, c'est pas mal ça, le but du milieu communautaire et des CDC. Je m'appelle Valérie Deschamps, bienvenue à C'est pas du blabla.
Ben voyons, comment ça qu'on cogne chez nous un matin? Moi, j'attends l'appel de Marilyn dans pas long, là. J'espère que la personne va être partie. Marilyn! Qu'est-ce que tu fais chez nous à ce moment-là?
Ben, je me suis dit que comme on va parler de logement dans le prochain épisode, je me trouvais drôle de venir voir le tien directement.
Ah, c'est pas pire, hein? Avoue, c'est beau. Avoue.
Bah, t'as une belle machine à café.
Hey, en passant, là, les logements, il en parlait encore à radio un matin. J'en reviens pas qu'en 2023, on a encore toutes ces problématiques-là. C'est un besoin de base, me semble, là, ce
loger. Ça n'a pas de bon sens.
Là. Je parle pas d'être dans un taudis. Là. C'est bien beau d'avoir un toit sur ta tête, mais il faut que ce soit sécuritaire, faut que ce soit propre. Mm. OK, tu vois, je m'emporte encore.
Non, c'est bien correct. Tu sais, je suis tellement d'accord avec toi. Puis pour vrai, une chance qu'il y a des groupes communautaires qui sont là pour pallier aux problématiques. Bon, c'est pas juste à nous de pallier à ça,
évidemment.
Mais bon... Encore une fois, les CDC ici là, donnent vraiment un solide coup de main dans plusieurs régions du Québec. Je vais t'envoyer, là, mets ça dans ton GPS, OK? On va aller dans la MRC du Granit. Ça, c'est dans le coin de Lac-Mégantic.
C'est beau, là-bas.
Mais après ça, tu vas aller dans la vallée de la Matapédia à Amqui,
là-bas
qui est
aussi
vraiment beau. Et je t'invite après à lâcher un coup de fil à Amos, c'est un petit peu loin, là, faire Bas-Saint-Laurent, Abitibi.
Oui, c'est sûr qu'en une journée, ça va être difficile.
Puis tu vas voir, hein, quand on parle de gens proactifs avec leur propre réalité, la situation des logements sociaux, là, c'est assez représentatif.
J'ai le sentiment que ça va me shaker par en dedans, ça.
Mais oui, madame.
Hey, mais là, avant que je parte, t'en veux-tu un café?
Oui.
Lac Mégantic. Il faudrait vraiment vivre dans une grotte hein, pour pas se souvenir de la tragédie ferroviaire de 2013. Par contre, je sais là, que la région puis le milieu, ben, ils se sont relevés à la suite de tout ça. Il y a un projet en matière de logement social qui a vu le jour il y a quelques années. Puis ça m'épate à chaque fois quand le monde se relève. J'ai hâte d'en parler et d'en savoir plus avec Marlène et Monique qu'on s'en va rencontrer justement à la CDC du Granit.
Ben moi, j'ai été directrice de la CDC pendant 10 ans.
Cette voix-là, c'est Monique.
Donc, j'ai quitté en novembre 2021 parce que je me suis présentée aux élections pour la préfecture de la MRC, puis j'ai été élue. Donc, depuis ce temps-là, je suis préfet de la MRC et Marlène donc, m'a remplacée à ce poste.
Exactement. Moi, j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années ici, dans le Granit, en développement des communautés. Je trouvais que c'était important là, d'avoir une CDC qui était forte puis qui pouvait représenter ses membres. J'ai décidé de prendre le relais de Monique.
À Lac-Mégantic, il y a un projet de logements sociaux qui a vu le jour en 2019. Monique était là dès les tout débuts. Et ce projet-là s'appelle le Concerto.
Ben écoutez, ça a démarré par une tragédie, hein. C'est-à-dire que le 6 juillet 2013, vous savez que nous avons vécu une tragédie à Mégantic avec cet accident ferroviaire qui a détruit la vie de 47 personnes, mais aussi qui a détruit tout le centre-ville de Lac-Mégantic. Il faut savoir qu'à l'époque, la CDC et le C3S avaient décidé de mener une étude sur le logement suite à l'intervention du Centre des femmes qui avait évoqué la problématique du logement abordable. Et c'était juste avant la tragédie. Donc, quand la tragédie s'est produite, elle était encore plus d'actualité puisqu'il y a eu une centaine de logements qui ont été détruits.
Donc, on avait une problématique déjà au niveau du logement. Oui. La tragédie arrive, ça double, triple même.
Ça augmente de façon très significative la problématique puisque au centre-ville, il y avait des commerces, mais il y avait aussi des logements aux étages supérieurs. Et souvent, des personnes à faible revenu habitaient dans ces logements-là. Donc, Là, ça a permis de mettre en avant le besoin qui existait. J'étais à ce moment-là avec l'organisateur communautaire et on s'est dit, bon, il faut absolument qu'on participe à la reconstruction donc, de Lac Mégantic en offrant donc, la possibilité d'avoir un logement à vocation mixte.
Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il y a une partie logement et une partie commerciale. Ça fait que la CDC puis son équipe sont partis consulter la population pour connaître leurs besoins. Ce qui en est ressorti, c'est qu'on avait des besoins en garderie. On voulait aussi avoir un module de jeu intérieur, on voulait des logements abordables et un lieu de concertation multisectoriel.
Donc, on a travaillé avec tous ces partenaires-là, donc tous ces gens qui étaient impliqués à
différents
niveaux.
Combien de personnes étaient alentour de la table environ? Ben, combien d'organismes?
Au début, il y en avait plus que moi. Mais petit à petit, avec le temps et le projet, on s'est retrouvés à 4 organismes à peu près.
Okay.
Mais au début, on était peut-être 8-9.
Okay.
Mais la complexité du projet, la lenteur aussi du processus a fait que certains se sont essoufflés ou se sont désolidarisés. Donc ça, ça a aussi été dans le processus. Finalement, le comité de pilotage, c'était 4 organismes. Donc le CPE sous les étoiles, le C3S, la CDC et la Constellation du Granit, qui est l'organisme de concertation, qui a aussi décidé de gérer le parc de jeux intérieur. Mais ce qui a été le plus beau dans l'affaire, c'est le sentiment que ce projet appartenait à toute la communauté. Donc ça, ça a été formidable, mais on a cultivé ce sentiment. C'est-à-dire qu'on a dû faire une énorme campagne de financement, qu'on a toujours tenu au courant la communauté des avancées du projet. On les a tous toujours inclus aussi. Ce qui fait que lorsqu'il y a eu l'inauguration en juin 2019, on a fait une porte ouverte où il y a plus de 500 personnes qui sont venues visiter le bâtiment. Le chapiteau qui avait été dressé dehors, donc...
Débordait
littéralement.
Il faut dire aussi que l'idée maîtresse derrière ce projet, c'était aussi de favoriser la mixité sociale. Donc, dans les 14 logements...
Il y a des 3,5, il y a des 4,5, il y a des 5,5. C'est ouvert à des populations ayant un faible ou un modeste revenu. Il y a 7 PSL dans ce bâtiment.
Des PSL?
C'est des programmes de supplément au loyer. Donc, c'est vraiment pour des personnes qui ont vraiment très, très peu de revenus. Puis les autres, c'est pour des personnes qui ont des revenus modestes. Donc, ça peut être des travailleurs à temps partiel, ça peut être des étudiants, des mamans monoparentales. Dans les personnes aussi, nous avons des retraités aussi qui avaient des toutes petites retraites, des personnes qui ont eu des gros problèmes de santé mentale, des personnes handicapées, et toutes ces personnes vivent ensemble. Donc ça aussi, c'est la beauté des choses, parce qu'on ne voulait absolument pas faire de ghetto, on ne voulait absolument pas se retrouver avec un immeuble uniquement pour une catégorie de personnes, on voulait que ce soit vraiment une mini-société. Donc, lorsque l'on a sélectionné les candidats, parce qu'effectivement, il y avait énormément de gens qui voulaient habiter dans le concerto, c'était un petit peu notre leitmotiv, c'est trouver des gens qui avaient cette ouverture d'esprit pour pouvoir vivre ensemble.
Et comme vous dites, il y en avait beaucoup qui avaient déposé leur candidature. Mmh. Ces gens-là qui n'ont pas été retenus, est-ce qu'on réussit à trouver un logement adéquat? Est-ce qu'il y a eu d'autres projets qui se sont faits par la suite pour justement répondre à ce besoin-là?
Bien, en fait, c'est encore un dossier chaud dans la ville de Lac-Mégantic, mais dans la région aussi du Granit de façon plus générale. C'est un dossier dans lequel le milieu communautaire s'implique encore, certaines populations. Donc, c'est encore un work in progress, comme on dit. On va dire ça comme ça.
On n'a personne à la rue. Mais les gens qui habitent dans des logements n'ont pas tous le même niveau, la même qualité d'habitation que ceux qui habitent dans le concerto. Le concerto est quand même un bâtiment LEED habitation, ce qui fait que, ne serait-ce que pour les factures d'électricité, c'est ridiculement bas. Alors que dans le périmètre urbain, il y a effectivement des logements à bas prix, mais qui sont mal isolés, et qui font que les locataires se retrouvent avec des notes d'électricité très lourdes. Mais on essaye d'avancer le mieux possible.
Et vous en êtes où, rendu là, justement? Est-ce que vous avez déjà, vous avancez un petit peu, ou c'est trop tôt pour parler de qu'est-ce qui se passe, comment on s'organise, justement?
Il y a plusieurs projets dans plusieurs municipalités pour justement bâtir des logements à prix abordable. C'est pas évident. C'est pas évident, comme je vous l'ai dit, parce qu'effectivement, les programmes ne sont pas adaptés à nos réalités. On essaye d'être inventif, voilà, donc, et créatif. Donc, il y a des choses qui se font.
Think outside the box, comme on dit en québécois.
Voilà.
C'est ça.
Donc, par exemple, bon, ça c'est pour le logement, mais par exemple pour les garderies, grâce justement à l'ouverture du gouvernement, on peut ouvrir maintenant des garderies en milieu communautaire, donc des garderies qui s'implantent dans les municipalités, grâce aux municipalités qui offrent des locaux à très bas prix pour des travailleurs autonomes qui ouvrent des garderies en milieu familial. Donc ça se déploie assez rapidement, j'ai vu.
Et là, vous commencez à me connaître et je suis bien curieuse. J'ai envie d'avoir une petite visite guidée privée du bâtiment.
C'est quand même fou de voir le centre-ville qui a une dizaine d'années, qui a 10 ans fait cette année. C'est comme reconstruit après cette tragédie-là, de voir en fait que on s'est relevé, on s'est retroussé les manches. C'est encore difficile, mais on réussit à se solidariser ensemble puis reconstruire du beau sur quelque chose qui a affecté tout le monde.
Rebonjour, mesdames.
Bonjour. Bienvenue au concerto.
Le centre-ville reprend vie à Mégantic, petit à petit. Justement, pendant qu'on se rend, Marlène et Monique m'expliquent que, comme voisins, le concerto aura un édifice à logement d'une 20aine d'unités avec aussi une salle communautaire.
Voilà le fameux
petit théâtre.
Parc. Oui, oui, on le voit avec les rideaux.
Oui, mais vous pouvez...
On peut s'approcher? On peut voir davantage. Est-ce qu'on peut rentrer?
Ben, je ne sais pas, peut-être, ben, s'il y a...
Gilles est là, on va aller voir.
Ben, si Gilles est là, ça va.
Youpi! Non, mais on a cette chance-là.
On y fait la rencontre de Lucie qui nous accueille sur son heure de lunch. C'est elle qui a les clés et elle nous ouvre les portes du parc de jeux. Ça a l'air qu'il ne faut pas regarder le ménage.
C'est incroyable, les enfants doivent capoter.
Oui.
J'aimerais avoir 8 ans et même 4 ans à nouveau. Pour vrai, c'est beau!
Oui. Puis ce qui est bien, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment, ça rappelle beaucoup d'éléments du territoire. Donc, pas uniquement de la ville, mais de la grande région.
Il y a quand même un sentiment d'appartenance régionale au projet, à la reconstruction du centre-ville. Donc, on voulait aussi donner une couleur régionale.
Puis, là, les étoiles reviennent souvent.
Oui.
Que ça a une valeur particulière pour le coin, l'étoile, est-ce que...
Oui.
C'est pourquoi?
Bien, nous sommes la première réserve de ciel étoilé au Québec.
Au monde.
Oui, au monde.
Vraiment au monde? Monde.
Oui.
OK.
Oui. Donc, ça fait référence à l'Astrolabe, au Mont Mégantic. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a des étoiles un peu partout chez nous.
Oui, que ce soit ici, que ce soit avec le CPE, avec le groupe aussi dont vous parliez, qui est gestionnaire de tout ça.
Oui.
C'est
tout
vraiment
est un
génial.
Peu sous la thématique, justement, des étoiles, des constellations.
Bien, on voit en tout cas que l'étoile de la solidarité, on peut dire qu'elle brille très fort à Lac Mégantic et dans le granit. Mesdames, merci. Merci beaucoup. Et je pense que j'allais faire un tour dans la piscine en balle.
Ah, bon, pas de problème.
Bye-bye, bonne journée.
Bye, bonne journée.
Maintenant, direction Amqui.
Je viens d'arriver à la CDC, la vallée de la Matapédia. Josée va nous accueillir.
Allô, Valérie.
Allô?
Oui, ça
Allô,
va bien?
Enchantée. Oui, toi?
Oui, bienvenue chez nous.
Ben merci, merci.
Tu sais, quand on dit que ce sont des gens de cœur, le milieu communautaire, ben Josée, on l'a sorti directement de sa terre à bois. Josée Carrier est agente de développement de la CDC de la vallée de la Matapédia. C'est elle, entre autres, là, qui est en charge de développer des projets avec le milieu pour pallier à des enjeux X, Y, Z. Et comme on est à des centaines de kilomètres des grands centres, ben je me demandais...
Quelle est la plus grande différence d'un point de vue des enjeux sociaux entre ici et les grands centres, selon toi?
Ben, je dirais, si on prend au niveau de l'itinérance, mettons, tu sais, ici, ben, en ville, on les voit. On le voit, on le constate qu'il y a des gens dans la rue. On peut voir, tandis qu'ici, c'est caché. Donc, c'est des gens qui vont avoir certaines difficultés, puis qui n'en parleront pas trop. Ils vont se promener d'une place à l'autre.
D'un voisin, ça, d'un ami, d'un cousin.
On appelle ça un peu des squatteux. Ils vont aller d'une place à l'autre, puis sans que ça paraisse trop. Donc là, les gens qui n'arrivent plus à payer le loyer, qui n'arrivent plus à se nourrir convenablement parce qu'ils ne gagnent pas assez, c'est un enjeu aussi, là, tu sais, ça peut amener des gens, là, tu sais, de garder, tu sais, déjà, les personnes, tu sais, s'ils étaient installés dans un logement, mais que, tu sais, ça leur coûte trop cher parce que, tu sais, ils arrivent plus. Là, il y a beaucoup de propriétaires aussi qui ont fait de la surenchère, donc...
On le vit aussi ici, là, oui. C'est pas parce que vous êtes pas dans les grands centres qu'on le vit pas, puis ça doit être... Je dirais que les impacts doivent être assez incroyables ici aussi.
Oui, puis c'est ça. Ici, il n'y en a pas beaucoup de logements. Rien. Je dirais pour le 1er juillet, il y a eu beaucoup de demandes de logements primodiques, etc. Puis de ce que j'en sais, tu sais, pour trois demandes, il va en avoir peut-être une de comblée. C'est sûr qu'il y a des programmes comme le PL1 qui fait que, bon, quelqu'un qui fait une demande de logement primodique, mais qu'on ne pourrait pas lui offrir un logement, pourrait se loger dans une propriété privée, là, dans un logement, puis pourrait avoir... une subvention de 90 % de la CHL puis 10 % de la municipalité. Donc, il pourrait payer le même montant qu'il paierait s'il était dans un logement primodique. Sauf que ça, c'est une procédure qui est longue. C'est souvent ça avec les procédures du gouvernement. Oui, c'est long. Puis souvent, tu sais, à l'OMH, ils se font dire, « Ouais, mais t'as des logements de libre, pourquoi tu... » Mais les normes sont... comme ça, eux autres sont obligés de respecter certaines normes, puis, tu sais, le logement, il faut que ça aille extant, qu'il n'y ait pas personne dedans, puis que, tu sais, c'est compliqué. Puis ça, si ça ne serait pas si compliqué, bien, il y aurait plus de logements, puis il y aurait peut-être, tu sais, plus de possibilités pour les gens qui sont dans la rue de se trouver quelque chose, là. On a un comité logement itinérance ici, donc c'est la CDC qui est porteur, donc, mais on a quand même le CIS, on a quand même la MRC qui est là, on a 5-6 organismes du milieu qu'on essaye de trouver des solutions. Tu sais, il n'y a pas de solution miraculeuse, là.
Ça n'existe pas, les miracles? On fait des miracles, en tout cas, mais ça n'existe pas.
J'aime à y penser que ça pourrait être ça, mais...
En fait, ça prend beaucoup de jus de bras, beaucoup de jus de cerveau,
oui.
Beaucoup d'amour pour réussir à faire les miracles.
C'est ça, puis pour essayer de trouver des solutions concrètes. Mais c'est ça, ça va quand même, tu sais, ça va quand même bien notre comité. On a réussi à faire une demande parce que tout passe par les sous, hein, on sait bien. Donc, on a réussi à faire un projet où on a une place dans une, ça s'appelle la maison Trait d'Union. C'est une maison pour les personnes qui ont des difficultés au niveau mental. Mais eux autres, il y avait comme un bloc ou tu sais, un espace, un logement à côté. Puis, ils ont accepté de faire partie du projet. Donc, on a une place présentement. Que si on a quelqu'un qui est vraiment en situation d'itinérance, peut avoir une place là durant 3 mois, logée, nourrie. Puis, on a aussi, là, on a ça, ce projet-là qui est depuis le mois de mai. Puis, on pouvait utiliser aussi l'hôtel. Donc, quand il y avait des gens qui se présentaient, bien, on pouvait les loger à l'hôtel, puis il y avait des sous pour ça. Dans le fond, il y avait cette possibilité d'envoyer quelqu'un à l'hôtel avant qu'on ait notre projet. Mais il y avait un enjeu d'assurance. Parce que quand tu envoies quelqu'un à l'hôtel, bien, tu sais, tu es responsable en tant qu'organisme. Donc, le CIS a pris cette charge-là de l'assurance. Sur 2-3 critères, bien, il va pouvoir loger là. Puis finalement, il n'y a plus d'enjeu d'assurance, là, parce que c'est plate à dire que tu ne peux pas loger quelqu'un parce que S'il arrive quelque chose, si ben c'est ça, t'es responsable. L'organisme pourrait pas endosser.
En plus de la situation du logement social, il y a tout l'aspect de l'itinérance qui a préoccupé le milieu de la vallée de la Matapédia. Les organismes se sont regroupés pour se rendre compte qu'il y avait un enjeu assez majeur à ce niveau-là. Et c'est là qu'on voit encore une fois toute l'importance d'une CDC.
Il y a eu un organisme au départ, puis après ça, après avoir consulté, il y en avait d'autres qui avaient constaté qu'il y avait plus de personnes qui étaient en situation d'itinérance. Puis, ils ont demandé carrément à la CDC voir si on pouvait pas faire quelque chose, puis voir à faire un projet. Puis ça a commencé comme ça, fait que c'est moi qui ai pris le projet en charge au départ. Puis c'est ça, j'ai abordé plusieurs organismes pour qu'ils participent avec nous. C'est que dans le fond, le comité en tant que tel, c'est vraiment d'essayer de trouver des solutions concrètes pour le logement et aussi pour l'itinérance.
Parce que pour l'instant, on se rappelle, le temps maximal, c'est 3 mois seulement qu'une personne peut rester dans ce logement-là. Mais on le sait bien là, que l'enjeu de logement, c'est pas une question seulement de quelques mois, là, c'est une question de pas mal plus que ça. Et c'est pour ça que le comité travaille actuellement à trouver des solutions plus durables. Parce que...
Moi, je trouve ça inconcevable là, qu'en 2023, on ne puisse pas se loger convenablement puis qu'on soit obligé d'être dans la rue parce que tout est trop cher, parce que le système est lent, parce que ou c'est pas reconnu. Tu sais, je trouve ça dommage. Là, le projet, on se continue, puis ce qu'on espère, c'est qu'il n'y en ait plus. mais en même temps, il faut être réaliste. Et avec le contexte, c'est sûr qu'il va en avoir. Fait qu'au moins, si on peut les aider. Notre force, je pense que c'est ça, c'est de travailler en concertation avec l'expertise de chacun. Puis ça fait un tout qui est quand même assez fort.
Assez fort, merci. Oui, ça donne du jus de bras, puis ça brasse du jus de cerveau à Amqui. Puis tu sais, c'est intéressant, quand on parle de logement, on entend souvent parler des grands centres, là, mais les réalités régionales, elles aussi, elles existent. Et parlant de région, on retourne à Maison pour lâcher un appel cette fois-ci à l'autre bout complètement du Québec, à Amos, pour parler avec Carole Boucher, où là aussi, l'enjeu du logement social est au cœur de tout.
Ce qui nous préoccupe actuellement, c'est beaucoup la situation du logement.
Carole, c'est la directrice générale de la CDC d'Amos. Elle me raconte à quel point la crise du logement les touche de plein fouet. Puis pas juste chez eux à Amos, là. Partout en Abitibi.
Tu sais, quand on parle de crise du logement, il y a toute la notion de l'équilibre entre l'offre et la demande. Puis là, on parle souvent du taux d'inoccupation qui, pour être en équilibre, doit être à 3 %. Nous, depuis 2007, on est en dessous du 3 % et les choses ne s'améliorent pas malgré le fait qu'il y a des constructions, il y a des logements qui se construisent à peu près à tous les ans. Il reste que le taux d'inoccupation actuellement, 2022, est de 0,7 %. Mais il y a une multitude de choses qui peuvent expliquer ça. Mais il reste que ce qui nous préoccupe, nous, principalement, c'est que là, tu sais, l'offre et la demande, c'est ce que ça fait. En fait, le logement, l'accès à un logement, c'est un droit. Mais ce droit-là est exposé au marché spéculatif. Fait qu'évidemment, moins il y a d'offres, plus il y a de demandes, plus les prix augmentent. Ce qui fait que là, c'est les gens en situation de vulnérabilité économique qui peinent à se loger, qui ne trouvent pas quelque chose d'abordable ou qui ne trouvent pas tout court, là, on va se le dire, il y a aussi ça.
Et c'est là qu'est tout le nœud du problème. Avoir de la difficulté à se loger, ça amène d'autres problématiques aussi.
Ce qu'on voit aussi, c'est finalement une cohabitation toxique qui perdure parce que, par exemple, tu te sépares de ton conjoint, ça ne va pas bien, mais là, personne ne trouve d'autres logements, fait que tu maintiens la cohabitation malgré le fait que ça ne va pas bien. Fait qu'il y a ça aussi qu'on a récupéré comme situation.
Ça ressemble à quoi les prix des logements à Amos? On parle souvent de Montréal, des grands centres, mais pour ce qui est d'une région comme la vôtre, majoritairement, ça peut ressembler à quoi pour donner une idée environ?
Écoute, on a quand même. Là, ce que je te dirais, c'est qu'au niveau du prix du loyer, il y a quand même eu une augmentation de 4,3 % l'année passée, l'année précédente, l'année passée aussi. Là, si je regarde au niveau des prix moyens, mettons, là, au niveau d'Amos, mettons, si on parle d'un 3,5, En 2018, c'était 507, là, 555. Les 4,5 ont quand même augmenté. Les 5,5, on est rendu à 816. Donc, un taux moyen de 693. Mais ça, c'est le taux médian qui est calculé selon la SHQ. Je te dirais que sur le terrain, ce qu'on voit, tu sais, c'est souvent des 700, 750 et plus. Puis là, bien évidemment, quand on parle de nouvelles habitations, celles qui ont été construites récemment avec les hausses des coûts de construction, des matériaux, toutes les kits, là, on tourne souvent autour de 1200, 1300. Fait que tu vois, on a fait une étude, un portrait des besoins en matière de logement de la MRC. Fait que là, on a fait appel aux locataires en disant, vous autres, là, de quoi vous avez besoin, combien ça vous coûte, combien vous devriez payer si vous ne voulez pas payer plus que 30%. Et j'ai même des gens qui étaient prêts à investir plus de 1000 $
qui ne trouvent pas réponse à leurs besoins. Et dans les dernières années, il y a véritablement eu un changement de paradigme.
Avant ça, les gens qui n'arrivaient pas à trouver un logement, c'était ceux qui disaient, ben moi, je dispose de 450, 500, pas plus, puis là, ben je ne trouve pas. Mais là, on a même des gens qui sont capables de payer 1000 $ sont capables, ils ont cette disponibilité-là, puis qui ne trouvent pas quelque chose d'adéquat. Évidemment, ils sont logés, mais ils sont logés pas à bonne place, dans le fond d'un sous-sol, c'est ça.
Des logements qui ne conviennent pas à une qualité de vie non plus, là, finalement.
Non, c'est ça. Fait qu'évidemment, les constructions nouvelles, on va toujours les prendre avec plaisir, parce qu'il y a quand même des gens à qui on n'arrive pas à répondre aux besoins, puis qui ont quand même des sous pour payer un logement plus cher. Mais la problématique qu'on a, c'est qu'avec l'augmentation du loyer, on se retrouve avec des gens, tu sais, par exemple, une personne qui bénéficie de l'aide de dernier recours, personne seule, sans contrainte à l'emploi, c'est 770 $ par mois qu'elle va avoir. Fait qu'évidemment, là, là-dessus, après, il faut que tu répondes aux besoins essentiels. Tu te loges correct, tu payes ton logement, mais il te reste à te nourrir, il te reste à te vêtir.
L'électricité aussi, absolument. Ces commodités-là.
Absolument. Fait que tu sais, tu comprendras que la marge financière est plutôt mince pour combler le reste des besoins. Donc, c'est là où les gens se retournent vers des dépannages alimentaires, banques alimentaires. Tu sais, on a fait, nous, on travaille avec un groupe de personnes qui bénéficient de l'aide de dernier recours. Puis là, à un moment donné, on a fait un atelier avec eux. Bon, là, on leur a dit, rêvez la gang, là, faites-nous, tu sais, c'est quoi votre monde idéal? Sortez-nous ça, là, de quoi vous rêvez? Les trois éléments principaux qui sont ressortis, moi, j'aimerais ça, avoir accès à un logement. Moi, j'aimerais ça avoir accès à des soins dentaires. Moi, j'aimerais ça avoir accès à des fruits et des légumes frais. Tu comprends-tu qu'il n'y a personne qui a dit « moi, j'aimerais ça avoir une Ferrari ». On se comprend, là, c'est des besoins de base. Ils rêvent de pouvoir répondre à leurs besoins de base.
Hey, puis pour de vrai, c'est tellement insensé qu'en 2023, on en soit encore là. Autant que je sais là, que c'est la réalité, ben, je veux dire, j'habite pas dans une grotte, là, mais j'arrive pas encore à concevoir que de pas répondre à tous ces besoins de base dans notre société qu'on dit évoluer, ben, on n'arrive pas encore à le faire, à combler ces besoins-là pour tout le monde. Ça a comme juste pas de sens.
Selon toi, ce serait quoi, mettons, comment on pourrait pallier à cette problématique-là de justement d'offres et demandes que nous mêle, en fait, là, la société dans laquelle on vit? Comment on pourrait pallier à ça?
T'sais, déjà, ça prend des logements. Ça prend plus de logements pour atteindre ce taux d'inoccupation-là. On le comprend là, qu'en 2022, quand on construit un bâtiment avec les coûts de construction, la hausse des coûts des matériaux, comme je le disais, c'est sûr que le prix de l'unité de construction est beaucoup plus cher. Fait qu'évidemment, il n'y a pas un privé qui construit du logement puis qui ne sera pas rentable. Fait que ça fait des loyers qui sont à 1200, 1300 et plus.
Et rentable demain matin aussi, là. C'est pas un rentable comme on faisait à l'époque d'acheter un bloc. L'objectif, c'était de s'assurer une retraite. Là, on n'est plus là. On est vraiment dans une entreprise, là, littéralement. Oh, là, des immopreneurs, comme ils s'appellent, le mot que je déteste d'ailleurs.
C'est ça. Fait qu'on est là, mais il reste que ça prend pas que ça. Ça prend aussi des logements qui vont être disponibles pour les gens en situation de pauvreté. Alors que là, le déséquilibre du marché fait en sorte que ces gens-là trouvent de moins en moins de réponses à leurs besoins. Fait que nous, on est pro-logement social. Fait que c'est ce qu'on souhaite qu'il soit établi sur le marché. Mais la problématique qu'on rencontrait, c'est qui fait ça? Qui va construire le logement social? Qui va le gérer? Comment on organise ça? Fait que, en fait, tous les groupes communautaires et tous les acteurs du territoire disent « ça en prend ». Mais ce n'est pas la job de personne de faire ça. Il n'y a pas personne dans sa mission qui a construire des logements puis les offrir à des gens en situation de vulnérabilité économique. Puis là, c'est un peu ça. T'sais, nous, là, ça fait depuis 2010 qu'on dit « ça prend ça », qu'on sensibilise les acteurs, qu'on sensibilise la population. Puis là, tout le monde est d'accord pour dire que ça prend ça.
Mais personne ne prend les rênes.
Mais personne ne prend les rênes. Puis c'est des gros projets, là. T'sais, on en a un projet là, pour lequel on vient d'attacher le financement. C'est plus de 10 millions. pour un 24 unités. Fait que c'est des gros projets. Fait que je comprends mes groupes communautaires qui disent hey, « Moi, je suis pas capable. Je sais pas s'il arrive n'importe quoi, un imprévu, là, oublie ça. »
Et puis, chacun a déjà en plus leur réalité puis leur mission aussi à la base. Là. Il y a ça aussi.
Ouais, absolument. Fait que tu sais, on tourne dans cette question-là depuis 2010. Là. Qui va gérer ça? Comment on va faire ça? On n'a pas d'expertise là-dedans. C'est un besoin. Puis même, on s'est rencontrés avec les autres MRC de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est un besoin dans tous les territoires de MRC. Mais on est toutes aux prises avec la même situation, c'est qu'on n'a pas de levier. Comment on fait pour répondre à cette problématique-là? On n'a pas de logements sociaux. Ça prend quelqu'un qui va construire du logement social, mais il n'y a personne pour qui c'est sa job de faire ça.
Et c'est là que tout s'organise et qu'encore une fois, la CDC démontre sa pertinence. Puis elle devient un pilier important pour fédérer tout ce beau monde-là.
Donc, si moi, je ne peux pas prendre le risque de construire des unités locatives, puis mon partenaire ne peut pas non plus, puis il n'y a personne autour de la table qui peut. Mais collectivement, peut-être mettre en commun les ressources, tant humaines que financières. Tu sais, je regarde, nous, ce qu'on dit, c'est moi, j'ai une expertise en logement. Moi, je suis capable de te sortir les gens, les enjeux, d'argumenter le fait que c'est nécessaire. Mais je n'ai pas d'argent. Mais j'ai une ressource, par exemple. La ville dit, bien, moi, je n'ai pas de ressources, mais je pourrais y investir de l'argent. Fait que, tu sais, c'est tous des acteurs comme ça. On a la ville d'Amos, donc la ville centre du territoire de MRC. On a la MRC qui est là. On a l'Office d'habitation qui est avec nous. On a un membre du GRT qui est avec nous. On a la CDC, mes organismes d'hébergement. Bref, on comprend que c'est plusieurs acteurs qui sont autour de la table. Et là, on s'est dit, bien, on va s'incorporer. On va créer un OBNL. Puis lui, ça va être sa mission, d'acquérir, de construire, de gérer des immeubles locatifs pour lesquels on va offrir des unités à des gens qui sont en situation de vulnérabilité. C'est ensemble qu'on a défini cette solution-là, puis on s'est dit, ben, pourquoi on n'incorpore pas? À partir du moment où individuellement, là, on se dit tous, un projet comme celui-là, c'est trop gros pour moi, ben, pourquoi on ne le prend pas ensemble? En mettant en contribution l'ensemble des ressources qu'on a pour arriver à quelque chose de très concret, qui est de construire du logement social. Parce que c'est très long quand même les projets de logement social. Puis là, on se disait, on en a un qui va voir le jour possiblement bientôt. Bon, on va en mettre un autre dans la machine tout de suite pour éviter ce flottement-là entre deux projets. Puis c'est vraiment ça l'objectif du comité, c'est-à-dire de créer du logement, le construire, bref. On veut gérer ça de A à Z.
Comment on attache ça, ce financement-là? Ça vient de Yousk. C'est-à-dire, l'argent ne pousse pas dans les arbres? Là.
Non, c'est ça. L'argent ne pousse pas dans les arbres. Fait que ça prend des contributions d'un peu tout le monde. Ça prend des programmes gouvernementaux qui sont adéquats. T'sais, déjà, il y a eu une amélioration là, au programme en question. Il y a eu une nouvelle mouture là, qui a été déposée en juin. Fait qu'il faut voir ce que ça va donner au bout du compte. Mais déjà, c'est-à-dire, on crée notre OBNL. Là, les besoins, on les a évalués. On serait peut-être à quelque chose autour de 25 unités. Fait qu'à partir de là, moi, je pars de ces besoins-là. Je dépose ça à mon groupe de ressources techniques qui, lui, va regarder c'est quoi les programmes disponibles en fonction de mes besoins. Parce que, tu sais, on s'est posé la question, hein? On part-tu du programme puis on dépose un projet pour qu'il rentre dans le programme ou on part des besoins puis après ça, on trouve un programme. Puis, évidemment, autour de la table, on a fini par se dire, ben des fois, c'est long. D'évaluer les besoins, tout ça. Puis là, ben finalement, là, tu pars d'un programme, tu évalues, puis là, le programme n'existe plus, il faut que tu changes de programme, mais toi, tu as bâti ton projet en fonction de ce programme-là. Fait qu'on s'est dit non, partons de nos besoins, puis après ça, on trouvera le programme qui répond à nos besoins. Mais évidemment, ça donne tout le temps un petit peu de tournée. Là. Moi, je suis un organisme communautaire qui bénéficie d'un financement à la mission de 160 000, qui ne peut pas investir d'une scène en immobilisation. Puis l'autre élément qu'on sait aussi, c'est quand on parle de soutenir des gens en situation de pauvreté, la population n'est pas tout à fait là. T'sais, on le sait, il y a des gens qui ont déjà un capital de sympathie quand on parle de ma maman monoparentale, des gens qui sont veufs, veuves, etc. Fait que ça, on le sait, qu'ils peuvent être en situation de pauvreté, on veut les aider.
La population est comme plus apte à aider, tandis qu'une personne qui est en situation d'itinérance ou qui a des troubles de santé mentale ou qui est juste en situation de pauvreté, ça n'a pas la cote au niveau du capital de sympathie.
C'est ça. Ça n'a pas la cote, ce qui fait que lever des fonds dans une communauté, c'est un peu plus difficile. Fait que là, parallèlement à ça, on a travaillé sur une campagne qui s'appelle « La pauvreté, c'est profond » parce qu'on avait cette tendance-là à la CDC d'utiliser toujours ce qu'on appelle, nous, les bons pots. Fait que là, on s'est dit, nous, on a envie de mettre toutes les causes de la pauvreté sur la table puis pas juste celles qui ont un capital de sympathie. Fait que là, on va partir avec cette campagne-là, faire aussi de la sensibilisation par rapport à toutes ces situations-là qui peuvent mener à la pauvreté.
Quel casse-tête, mais quel procédé, puis quel projet aussi. On ratisse tellement large, mais c'est ça aussi la réalité d'un projet comme celui-là, tu sais. Quand on parle de logement social, on parle aussi d'enjeux de cohabitation, de mixité sociale. T'as pas le choix de sensibiliser la population si tu veux qu'elle soit derrière toi, qu'elle embarque dans le projet, puis que tout le monde, ben, comprend l'enjeu et le besoin. Le projet d'édifice locatif est en processus. C'est sur la planche à dessin. C'est pas encore fait officiellement, mais ça s'en vient.
Tu sais, évidemment, de dire « je veux être un joueur important dans cet enjeu-là », bien, ça, j'y arrive pas. Mais en groupe, pour vrai, j'ai bon espoir qu'on va y arriver. Puis si on se reparle dans un an et demi, j'aimerais ça pouvoir te dire « c'est fait, c'est cané, la première pelletée de terre, c'est bientôt ». J'aimerais ça pouvoir te dire ça. Fait que c'est sûr que je veux que l'OBNL qu'on a créé collectivement, puis pour lequel tout le monde est engagé, parce qu'on a tous le même problème, là, on n'a tous pas de réponse. Fait qu'on a toute une lueur d'espoir dans cette OBNL-là qu'on a créé ensemble, puis qui me semble être une réponse intéressante. Les partenaires nous reconnaissent, mais on les reconnaît aussi. Fait que c'est là où réside le vrai collectif. Puis moi, je dis toujours aux gens, des victoires individuelles dans notre univers à nous, ça n'existe pas. Elles sont toutes collectives. Des fois, c'est un collectif avec mes groupes communautaires, puis des fois, c'est un collectif avec mes partenaires. Mais la CDC, à elle seule, là, serait très peu de choses sans tous ces gens-là autour d'elle.
C'est les plus beaux mots de la fin qu'on pouvait avoir. Merci beaucoup.
C'est un plaisir.
C'est fou à quel point le travail que font les CDC, encore une fois, c'est essentiel. Moi, vous le dire. Puis ça, c'est d'un bout à l'autre du Québec, là, tellement concret que grâce au travail du milieu et des CDC, ben, y a du monde qui pourront avoir un toit au-dessus de leur tête. À l'animation et à la réalisation, Valérie Deschamps. À la technique, au mixage et à la conception musicale, Dominique Brouillard. Merci à Marlène Bachand, Monique Ferrivon-Lenoir, José Carrier et Carole Boucher pour leur participation. Le balado C'est pas du blabla est une présentation de la Table nationale des CDC.